Bonsoir et bienvenue sur Fréquence Protestante 100.7 FM pour votre émission Regard sur la politique, enregistrée au Parlement européen à Bruxelles avec ce soir Antoine Kowalski.
Bonsoir Vincent.
Bonsoir Antoine. Martin Wittenberg.
Bonsoir Vincent.
Bonsoir Martin et Vincent Chouvet. Nous recevons aujourd'hui la parlementaire européenne du mouvement démocrate, Nathalie Griesbeck. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, en ce moment, la question au Parlement européen tourne principalement après Fukushima et dans la perspective de l'après Kyoto sur les questions environnementales et sur cette thématique, Martin Wittenberg.
Alors, sortir du nucléaire, c'est le cas de l'Allemagne et de l'Italie, récemment, qui ont décidé de se désengager du nucléaire civil. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous pensez que cette sortie du nucléaire est envisageable en France? Et si oui, à quelle échéance?
Moi, je pense que avant tout, il faut qu'il y ait un débat public, mais un vrai débat, c'est-à-dire qu'on pose sur la table toutes les cartes que représente pour notre pays le nucléaire en termes de développement durable, en termes de coûts en matière d'énergie pour les ménages, en termes de perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'il représente comme atout et comme inconvénient. Donc un vrai débat et une décision, et à mes yeux, personnellement et politiquement, mais c'est à mes yeux, et c'est important que l'on réfléchisse tous individuellement, pour aboutir à une décision collective, à mes yeux, je pense qu'il faut envisager à moyen long terme de sortir du nucléaire, à condition qu'il y ait, évidemment, en termes de recherche et de possibilités énergétiques, des alternatives, mais de vraies alternatives. Quand je vois aujourd'hui au plan national français les atermoiements du gouvernement, quand on prend des mesures donc l'année dernière pour faciliter accroître le photovoltaïque qui pouvait être une partie de la réponse de notre indépendance par rapport au nucléaire donc et de notre volonté de nous mettre dans les clous entre guillemets donc du pacte européen que nous avons signé de 3x20 pour 2020 et qu'en même temps lorsque le gouvernement s'aperçoit que ça marche, décide de retirer l'échelle parce que ça marche trop bien en décembre. Et donc, revient sur son décret, supprime les avantages qui étaient liés quand il voit que les Français, et surtout les PME, ont compris que ça pouvait être à la fois du développement économique et donc de la création d'emplois. Et que des PME se sont engagées dans cet investissement. Donc, de la clarté, du débat, mais du débat sérieux. Il ne faut pas prendre les Français pour des gogos. Ils sont capables de comprendre ce que le nucléaire aujourd'hui leur apporte dans leur quotidien et économiquement et quels sont les défis. Surtout qu'il n'y aura plus rien de semblable entre avant Fukushima et après Fukushima.
Est-ce que vous pensez que la focalisation de la France sur l'énergie nucléaire, notamment en termes de recherche-développement, à contrecarrer la mise en place d'une vraie filière du renouvelable dont vous parliez à l'instant, contrairement à l'Allemagne, par exemple, où il y a des prévisions à plus de 400 000 emplois dans le secteur des renouvelables. Pour l'instant, en France, nous ne sommes pas sur la même échelle. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire en France pour vraiment se focaliser sur d'autres sources de création d'énergie comme les renouvelables?
Il faut être cohérent. Vous prenez l'exemple allemand. Donc du point de vue économique, environnemental. Vous pouvez prendre aussi l'exemple italien du point de vue politique avec le référendum qui s'est déroulé et qui a montré que les citoyens étaient très attentifs. Hein. Ils étaient présents, ils ont voté, ils se sont exprimés, surtout sur un référendum. Donc et sur un plan plus politique, moi je n'approuve pas la position un petit peu bipolaire de l'Allemagne je pense que ça manque un petit peu de responsabilité. Et en France, il faut trouver un équilibre. Et surtout si on envisage à moyen long terme de sortir du nucléaire. On ne peut pas du jour au lendemain décider que nous irons tous à vélo et que toute l'énergie dépendra des éoliennes. Mais on peut décider de s'y mettre. Mais alors pour cela, je le redis, je reviens sur l'exemple du photovoltaïque, d'être cohérent, de poser des actes et ensuite de les laisser prospérer. Ça n'est pas le cas aujourd'hui en France.
Nathalie Griesbeck, la décision de prolonger la centrale nucléaire de Fessenheim a été prise, donc 10 ans de plus pour la centrale. Qu'est-ce que vous en pensez ?
qui est dans votre grande circonscription, on l'appelle le Grand Est.
Grand Est, oui, où il y a 5 régions, Bourgogne, Champagne, Ardennes, Franche-Comté, Alsace et Lorraine. Je pense que c'est une décision qui est un peu cosmétique, qui a été prise à la va-vite. Donc moi, j'aimerais qu'il y ait sur toutes nos installations nucléaires un système d'évaluation et de contrôle qui soit, si nous sommes assez tranquilles, comme semble le signifier les décisions, que ces contrôles et ces évaluations, ces audits, soient organisés et faits par des autorités non françaises, par exemple. Ce qui donnerait de la crédibilité et qui restaurerait une forme de confiance par rapport aux citoyens que nous sommes.
Des autorités européennes, par exemple ?
Oui, absolument. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que bien, les Allemands contrôlent les Français, les Lituaniens, les Italiens. Enfin, vous voyez, un système qui donnerait plus de crédibilité. Si on est tranquille, alors faisons cela. On n'a pas de problème.
Martin Wittenberg.
Alors, autre question. Vous nous disiez que donc, vous êtes député européen, Nathalie Griesbeck, représentant la région Grand Est, ce qui inclut la ville de Strasbourg. Nous sommes au Parlement européen. Le siège de Strasbourg est un siège contesté par certains. Il est vrai qu'une fois par mois, donc, le personnel du Parlement européen part pour Strasbourg, puisque les sessions plénières sont une fois par mois à Strasbourg. Le coût estimé de ces déplacements est de 200 millions d'euros par an, sans compter les coûts en CO2, nous avons parlé d'environnement. Vous défendez ce siège de Strasbourg. En même temps, vous comprenez sûrement les critiques qui sont faites sur ce déplacement qui paraît un petit peu absurde aujourd'hui.
C'est une question récurrente. Nous siégeons à Strasbourg. C'est là que, ensemble, les Européens ont décidé de poser le siège du Parlement européen, c'est-à-dire de l'organe démocratique. Et nous travaillons en commission à Bruxelles et aussi en groupe politique. Donc, je comprends tout à fait le questionnement et je me le pose, moi aussi. Je ne suis pas sur une autre planète. Et y a une solution très simple, c'est qu'il y ait, je suis aussi pour eux, un siège unique. Je suis tout à fait d'accord pour un siège unique, un seul lieu de travail.
À Strasbourg.
À Strasbourg, tout simplement. Les locaux de notre Parlement, comme vous le voyez, sont magnifiques. Ils sont fonctionnels nous avons aussi, chaque député a un bureau pour travailler. Nous pouvons recevoir. Strasbourg est une capitale européenne. Et nous serions même, au fond, encore plus visibles parce que nous ne serions pas fondus, entre guillemets, dans l'eurostructure, dans la technostructure qui est celle de la Commission et donc de l'organisation du Conseil. Un seul siège, un siège unique, c'est parfait. J'ajoute aussi qu'effectivement les transports jusqu'à présent représentent un coût, mais ce qui représente le coût le plus important de fonctionnement de notre institution démocratique, c'est la traduction et l'interprétation, ce à quoi je veille comme le lait sur la soupe, puisque ça représente la diversité de l'Union européenne. Ça fait une des grandes différences avec les États-Unis, etc. Nous sommes riches de cette diversité, même si c'est parfois difficile à tricoter tout ça.
Alors, en mars dernier, le Parlement a adopté son calendrier qui réorganise les sessions plénières au siège de Strasbourg. Donc, pour faire simple, deux sessions sont organisées en même temps au mois d'octobre, ce qui revient à supprimer en réalité une des 12 sessions plénières qui doivent avoir lieu à Strasbourg par an. La France s'est élevée contre cette disposition et a porté un recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que vous soutenez cette initiative ? Est-ce que cette initiative a des chances d'aboutir, Nathalie Griesbeck ?
Eh bien, moi, je lis pas dans le marc de café. Et comme vous le savez sans doute, le droit n'est pas une science exacte. C'est une science mais rigoureuse, mais c'est un peu comme la médecine. Donc, ça dépendra évidemment de l'analyse juridique. Mais à première vue, il y a tout à fait non-conformité entre cette décision du Parlement qui supprime donc des sessions et les textes qui fondent l'organisation du Parlement. Donc, je la soutiens et j'espère qu'elle prospérera. Et en même temps, je vais vous dire, je pense que les difficultés du demi-milliard de citoyens que nous constituons aujourd'hui sont de telle nature et vont à une telle vitesse que j'aimerais, moi, ne pas user mon énergie à m'occuper d'éteindre dans les textes ou ici ou là les amendements qui se préoccupent donc du siège. Nous avons la problématique de la gouvernance économique, financière, assurantielle, qui est un élément extrêmement important dont il faut qu'on parle. Nous avons à nous occuper des ressources propres de l'Union européenne. Par exemple, avec la taxe sur les transactions financières, nous avons à réfléchir donc à ce que nous évoquions d'entrée de jeu dans cette émission, c'est-à-dire comment traduire au-delà des mots un vrai développement durable pour les générations futures. Donc, bien sûr qu'il faut s'occuper de ces attaques récurrentes, mais j'ai envie de dire que vraiment on a d'autres chats à fouetter par rapport aux préoccupations de nos concitoyens.
Alors, Nathalie Griesbeck, sur les sujets plus brûlants, il y a évidemment la Grèce et la dette des pays périphériques. En ce moment, fin juin, début juillet, il y a une série de réunions du Conseil, de la Commission pour étudier un possible plan d'aide à la Grèce. Quelle est la vision du mouvement démocrate et du groupe auquel vous appartenez, l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, sur cette solidarité budgétaire européenne?
Eh bien, nous ne sommes évidemment pas, comment dire, comme des godillots dans le groupe dans lequel je siège et dans lequel siègent les députés du MoDem, du mouvement démocrate, qui s'organise autour de Marielle de Sarnez. Nous n'avons pas nécessairement une seule position, en tous les cas celle de la délégation à laquelle j'appartiens, c'est que nous n'avons pas le choix même, nous ne faisons pas de la solidarité une idée simplement généreuse. Nous n'avons pas le choix dans la zone euro, à nos yeux, de gambader autrement, car ce qui arrive en Grèce nous concerne nous aussi, concerne évidemment les Grecs, mais nous concerne nous aussi. Et donc cette solidarité, elle apparaît comme un impératif catégorique pour la majorité des membres du groupe auquel j'appartiens. Et le vote qui va se dérouler est un vote très important parce qu'on ne sait pas si on réunira la majorité requise pour aboutir à exprimer cette solidarité dans la durée.
L'expression de cette solidarité, est-ce qu'elle nécessite que l'Union change de nature, qu'on passe à un vrai fédéralisme européen avec un budget de conséquent qui est aujourd'hui autour de 1,5% du PIB, avec des vrais mécanismes de redistribution? Est-ce qu'on est obligé d'aller là et est-ce que le mot fédéralisme n'est pas tabou au mouvement démocrate et chez les libéraux?
Pour nous, c'est un objectif, mais pour l'instant ça n'est qu'un rêve encore, puisque étant donné la dureté et la durée de la crise dans laquelle nous sommes malheureusement encore trop profondément enfoncés, le fédéralisme n'apparaît pas malheureusement comme une solution. Moi, je souhaiterais que nous entrions dans un système vraiment fédéral avec une dépendance dans l'interdépendance, c'est-à-dire un respect mutuel et une organisation d'ensemble, parce que je pense que ça donnerait plus de lisibilité à l'empire continent que constitue l'Europe dans la bataille de la mondialisation. Et ça lui donnerait plus de force. Mais l'heure n'est pas à cette forme. Elle viendra, je l'espère. Je voudrais rappeler que l'Union européenne, elle est à l'âge encore de l'adolescence par rapport au temps des sociétés et que je pense que ça viendra. Par rapport aux ressources, évidemment, c'est une question très importante. On ne peut pas nous dire on va aider de telle et telle manière, manier les milliards qui sont tellement souvent maniés aujourd'hui que nos concitoyens en ont le tournis, sans qu'il y ait derrière des ressources. Alors il y a évidemment l'engagement des banques, l'engagement des organismes privés, hein, comme le sont les banques. Et puis, il y a la manière de redynamiser le budget de l'Union européenne. Vous avez dit le pourcentage, exactement, c'est pour le budget 2012, 1,12% du produit national brut, de l'Union européenne. Et en ce qui concerne les crédits d'engagement, et puis 1,01% en ce qui concerne les crédits de paiement. C'est-à-dire, bon, des sommes qui sont en milliards, des sommes à hauteur de 147, un peu plus, milliards d'euros pour une année, mais c'est pas suffisant pour pouvoir répondre à tous les challenges qui sont demandés par les Européens, même si c'est un peu schizophrène. Donc, parce que
plus de budget, en tout oui. cas, plus de décisions politiques, plus de volontarisme. Voilà.
Voilà, mais plus de budget, et ça passe éventuellement par des éléments nouveaux que nous appelons de nos voeux, notamment François Bayrou, je crois que c'était en 1999, évoquait l'idée de la taxe sur les transactions financières. Elle est en train de poindre le bout de son nez à travers des votes successifs que nous adoptons. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que ça ne reposerait pas sur le contribuable. Et ça correspond à une idée de la morale dans la gouvernance économique du monde. C'est-à-dire ces flux qui vont à une vitesse astronomique, le fait de les écrémer rapporterait de la galette au budget de l'Union européenne, sans que ça pèse sur le contribuable. Et avec Jean-François Kahn, on allait même plus loin. Son idée est assez géniale, c'est-à-dire que plus il y a de rapidité dans la spéculation sur les transactions financières, plus la taxe doit être importante. Ce qui signifie qu'on tacle un petit peu ceux qui, en fait, vivent sur la bête, en quelque sorte, en spéculant très fortement. Ça, c'est quelque chose qui apporte de la morale budgétaire et qui apporte aussi, évidemment, c'est la réponse à votre question, des moyens pour répondre aux politiques, pour répondre dans les politiques européennes aux besoins des citoyens.
Est-ce que la société politique, Nathalie Griesbeck, est-ce que la société politique française est suffisamment mûre pour s'engager dans le chemin du fédéralisme? Nicolas Demorand, dans Libération, il y a quelques jours, parlait, avait pris position très clairement pour le fédéralisme. Est-ce que la gauche française n'est pas en train de basculer vers ce fédéralisme-là?
Moi, je ne sais pas de quelle gauche vous parlez.
Parti socialiste.
Mais c'est qui au Parti socialiste? Leurs avis sont très différents. Alors, je vous redonne mon point de vue. Pour moi, c'est un espoir. Pour moi, c'est un chemin, le fédéralisme, parce que ça donnera de la lisibilité, parce que ça permettra donc d'exprimer une solidarité en respectant les libertés de chacune des entités que seraient les États. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui mûrs pour cela. J'écoute mes concitoyens et je vois qu'ils ont peur du fédéralisme, parce que, notamment en France, parce qu'on n'a pas compris en France que le fédéralisme, c'était quelque chose qui respectait l'identité locale. Donc, moi, mon rôle de député, c'est de poursuivre la construction de l'action publique là où je me trouve, en répondant aux besoins des citoyens, à leur désespoir, à leurs espoirs. J'aime bien cette phrase de Jaurès qui est comme un fil rouge, que j'essaie de mettre comme un fil rouge dans mon action, qui est d'aller à l'essentiel, à l'idéal, aller à l'idéal et comprendre le réel. Aller à l'idéal et comprendre le réel. C'est la problématique de tous les temps, mais c'est spécialement la nôtre. Donc, n'embrouillons pas pour l'instant les choses en imaginant donc de théoriser sur le fédéralisme, puisque nous sommes dans le feu de l'action, que les citoyens ne veulent pas ça. D'autant, vous voyez bien les nationalismes.
Oui,
il faut combattre les nationalismes. Et donc, pour cela, il faut apporter des réponses concrètes qui permettent de sortir de la mouise dans laquelle les gouvernants nous ont mis, à commencer par les Grecs, mais j'en citerai pas d'autres, mais j'ai une foultitude d'exemples.
Nathalie Griesbeck, députée européenne MoDem du Grand Est, merci beaucoup. On se retrouve après une courte pause musicale.
Un été où je venais d'atteindre mes 14 ans, j'avais donné rendez-vous à une enfant, une petite espagnole du quartier. Un été, par la fenêtre ouverte de la villa, je guettais l'arrivée de ma Paquita. quant à la grille du jardinet, la cloche a carillonné. Je me suis soudain jeté à plat ventre, la joue clouée au plancher de ma chambre, tremblant, roulant des yeux épouvantés. Oh non, non, j'entendis ma grand-mère crier mon nom, et j'attendis dans une terreur sans nom, qu'on me mit en présence de l'État. Il était là, debout, au milieu de ma chambre, sous la jupette jaune, brunissait l'or des jambes, et le blanc de ses yeux brillait comme du lait. Il fait chaud cet été. L'été était muet. Alors on est sorti et nous avons marché sur la route rôtie, brûlant comme des rails. Parallèle, on allait un été. Marchions côte à côte sans nous parler. Les maisons avaient fermé tous leurs volets, et parfois le de nos doigts se frôlait. Mes tempes battaient le ciel d'incendie, et je me disais, qu'est-ce que je lui dis? Je ne trouvais rien qu'à me trouver mal, et quand nous fûmes au canal, devant le la main à ma camarade, et lui tournant le dos, j'ai galopé, galopé loin de la jupe jaune et du visage trempé. J'ai couru comme un foxené vers ma chambre, le cœur craquant des cendres de l'été.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Protestante 100.7 FM en public au Parlement européen à Bruxelles pour une émission avec Antoine Kowalski, Martin Wittenberg, Vincent Chevet, et nous recevons donc ce soir Nathalie Griesbeck, députée européenne Modem du Grand Est, qui nous a parlé dans une première partie de la politique européenne et des grands défis auxquels l'Union européenne est confrontée et que l'on va interroger maintenant plus spécifiquement sur la politique intérieure et sur ce sujet Antoine Kowalski.
Nathalie Griesbeck, comment va François Bayrou après ce sondage France Soir qui le crédite à 42% comme personnalité préférée des Français pour le centre?
François Bayrou va bien, il change pas, il s'adapte pas selon l'air du temps simplement. Il n'a pas changé, il reste déterminé. Les pieds bien plantés, campés dans le réel, repenser à cette belle citation de Jaurès, aller à l'idéal et comprendre le réel. Et donc, les sondages vont et viennent. Celui-ci est intéressant dans la mesure où il se rapproche d'une forme de sincérité actuelle. Il y a une espèce d'ébullition au centre, de coucou, vous voyez, qui se disent finalement je quitte une partie, un parti dans lequel j'étais parce que ça sent le roussi.
Et clairement, on parle de Jean-Louis Borloo, là.
Je ne sais pas, il y en a plein. Nous venons, nous, d'inaugurer une maison du centre, rue d'Université. Moi-même, j'appartiens au MoDem, bien sûr, et je suis membre de l'UDF. Et nous avons des valeurs à défendre. Alors, si d'autres les partagent ou si on se retrouve sur ces valeurs d'indépendance politique, par rapport à tout ce qui vient de se faire pendant deux décennies, et humaniste, mettre l'homme au centre des décisions et de décentralisation et d'une construction de l'Union européenne qui soit solide, même si elle est grave et difficile, alors nous serons ensemble.
Le mouvement démocrate a quand même eu une période très sombre ces dernières années, perte des élections locales essentiellement. Comment vous envisagez la préparation des élections présidentielles en 2012? Quel est le calendrier et qu'est-ce que vous envisagez?
Donnez-nous des secrets de campagne.
Voilà.
Moi, j'ai jamais pensé qu'on était dans une période sombre. C'est pas parce que tout le monde vous tire dessus que vous avez nécessairement tort. C'est pas. Pour moi, j'ai même pas le sentiment d'avoir traversé le désert. Je me sens en phase et à la recherche de cette adéquation avec les gens que je représente en permanence. C'est ça, être élu. C'est représenter les citoyens, les écouter, les entendre et essayer d'agir. Donc, cela dit, c'est anecdotique. Maintenant, comment les choses se présentent-elles? Je crois qu'il faut avoir le langage du courage, de la vérité, de la lucidité. C'est ce que nous faisons depuis toujours, et François Bayrou le premier. Donc, nous continuerons de le faire. Et donc, quoi qu'il arrive, de discuter, de rencontrer, de partager avec les Français et la gravité de la situation et la volonté de dépasser cette gravité pour représenter un projet qui soit fait avec eux et pour eux.
Vous êtes également conseillère générale de Moselle et vice-présidente du Conseil général de Moselle. Est-ce qu'il n'y a pas cumul des mandats entre le mandat européen et le mandat local?
C'est une question qu'on pose systématiquement à tous les invités.
Oui, non, mais moi, elle ne me dérange pas du tout. Je suis tout à fait dans le cadre de la loi. Et alors, évidemment, j'ai plus beaucoup de temps pour les loisirs, ça c'est sûr. Mais j'estime que c'est un temps de ma vie où j'ai décidé d'essayer de faire bouger les montagnes, de les faire reculer. Et de faire prospérer et de faire monter les arbres, donc les feuilles. Et donc, je suis tout entière occupée à ces deux responsabilités et ça va bien ensemble. Si vous voulez, quand je suis dans une famille comme hier où il y a un jeune handicapé ou que je suis avec mes collègues pour me battre sur le projet Ulcos dans la sidérurgie, ou que je suis dans les associations, ou même dans les rues et les bistrots, ça va avec cette idée. Et ça décline bien, aller à l'idéal et comprendre le réel. Pour comprendre le réel, il faut être sur Terre, et pas uniquement dans les étoiles européennes.
Martin
Wittenberg. Et pour être dans les étoiles européennes, il faut avoir un idéal.
Martin.
Alors, faites-nous partager votre quotidien, Nathalie Griesbeck, à la fois européen et local. Quelle est la semaine type de Nathalie Griesbeck?
Oh là là, ça c'est redoutable. C'est une semaine type, c'est complètement varié. C'est ça peut changer absolument tous les jours. C'est recevoir mes concitoyens en rendez-vous sur toutes sortes de sujets. Je prends.
On va feuilleter.
Oui, je regarde.
Surchargé.
Bon, non, pas surchargé. Organisé. Non, est-ce que j'ai l'air surbooké?
Non, vous avez l'air totalement en forme.
Enfin, peut-être pas, mais non. Alors, je vois donc là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 rendez-vous. Un sur la sécurité routière, un sur le problème de la prise en compte, c'est assez marrant d'ailleurs, du développement durable par des gens qui s'occupent de grandes surfaces. Que j'ai un petit peu titillé parce que j'y crois moyennement, mais conversation très intéressante que cette personne m'a aussi révélée en ce qui concerne le fonctionnement complètement hypocrite des commissions départementales anciennement d'urbanisme commercial. Ensuite, demande d'emploi. Ensuite, difficulté d'une personne qui a eu un trop perçu par la CAF. Ensuite, club de prévention dans les quartiers sensibles, c'est-à-dire donc les travailleurs sociaux qui répondent à des besoins, etc. Ensuite, j'accueille le nouveau directeur général d'un très grand hôpital, Hospitalor. Ensuite, des problèmes d'emploi. Ensuite, des problèmes concernant un site franco-allemand, Blisbruck. Enfin, si vous voulez, il y a un rendez-vous sur toute cette tripotée qui parle de politique. Quelqu'un du Parti radical qui veut me dire, venez avec nous, écoutez-nous, restez avec nous.
Vous allez lui dire, venez au modem avec nous.
Je lui ai dit, je l'ai écouté sagement. Il était un petit peu répétitif, mais je lui ai dit, si on partage des valeurs, alors il faut partager celle de l'indépendance. Et là, on est ensemble. Enfin, syndicat, ensuite, rencontre avec les syndicats d'une grosse structure. Un jeune stagiaire qui voulait un stage et qui parle l'arabe et qui était en Syrie, que j'ai très envie d'avoir à mes côtés parce que je m'occupe aussi de liberté publique et que je vais dans les lieux des réfugiés. J'étais donc à Lampedusa, j'étais donc au sud de la Tunisie dans les camps pour voir la façon dont on crée un fossé entre ce qu'on a pu entendre dire des gouvernants et ce que l'on voit sur le terrain, l'indignité politique des propos, ceux qui se réjouissent des révolutions et qui tiennent absolument pas compte des effets, et où on a entendu certains politiques, même des femmes, dire qu'on n'avait qu'à les renvoyer dans des bateaux sans fond. Vous avez entendu cette horreur du 21e siècle, dites au 21e siècle.
Chantal Brunel.
Oui. Donc, pour contrebattre ça, il faut comprendre le réel. Pour aller
justement,
à l'idéal.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ces voyages, enfin de ces voyages d'études dans la Tunisie, comment vous les appelez? Alors, ce sont des
missions de 24 heures.
Voilà. Mission de 24 heures en Tunisie, en Syrie. Je crois que vous partez bientôt.
Peut-être. Et donc, peut-être en Syrie, enfin à la frontière turco-syrienne. Mais ça n'est pas un espace européen. En revanche, aller sur l'île de Lampedusa, c'est un espace européen. Et dans le sud de la Tunisie, c'est non européen, mais donc on en a beaucoup parlé. Eh bien, à travers la participation qui est la mienne dans la commission des libertés, des affaires intérieures et de la justice, je suis vraiment arc-boutée sur l'idée qui permet de combattre les nationalistes qui prospèrent comme des mauvaises herbes partout avec du rêve. Eh bien, de l'idée de notre devoir de créer un droit d'asile européen, une politique de migration européenne qui nous rassemble tous autour de règles et de critères que nous partagerions, alors ça veut dire qu'il faut discuter, et que nous appliquerions. Telle est la solution. Par rapport aussi à une Europe vieillissante, à la démographie un peu plate, où certains disent, piquons les cerveaux. Moi, je suis pas du tout sur cette longueur d'onde-là. Ça n'est pas digne non plus. Mais où nous pouvons imaginer une dynamique démographique de l'Union européenne en ayant donc des positions qui soient dignes par rapport à ce qui se passe autour de nous.
Mais est-ce que vous comprenez les critiques à l'égard de l'Union européenne aujourd'hui en termes de frontières, les retours, les replis sur soi nationalistes, etc. Est-ce que ce sont des choses que vous comprenez, que vous entendez?
Ah, je les entends. Je comprends que dans cette désespérance, il y ait des gens qui ont envie de se recroqueviller, comme sur l'euro, comme sur... vous avez vu cette idée qui a été développée de revenir sur Schengen, alors que c'est une des plus magnifiques réalisations de la mobilité. Moi qui suis dans une région transfrontalière, les bras m'en tombent. Donc j'entends ça. Je comprends que certains puissent se laisser séduire par ces marchands de rêves. Mais ça signifie aussi que nous ne sommes pas assez lisibles. Nous n'expliquons pas assez ce que représente la construction européenne pour nos concitoyens. C'est notre boulot de le faire, c'est notre boulot d'écouter, c'est notre boulot de combattre aussi les chimères.
Alors justement, Nathalie Griesbeck, comment faire le lien entre votre travail de parlementaire européenne et la réalité, l'impact concret sur les citoyens? Vous avez parlé des libertés individuelles, vous siégez aussi dans une autre commission qui est la commission transport. Je crois que vous avez récemment participé à l'élaboration d'un nouveau paquet de sécurité routière proposé par la Commission européenne. Le Parlement a aussi donné son opinion là-dessus. Est-ce que vous pouvez dire concrètement entre ce que vous avez fait sur ces questions de sécurité routière, ce travail-là, en quoi ça va affecter la réalité des automobilistes et des citoyens de l'Union dans les prochaines années?
J'étais shadow, comme on dit. Je suis dans le shadow gouvernement de Bayrou. Je suis en charge des libertés, grosso modo un peu, sans aucune prétention, comme un garde des Sceaux, vous voyez. Mais il y a de quoi dire, hein, y a de quoi faire sur la pénitentiaire, sur la garde à vue, etc. Et bien là, je suis pas toujours shadow, mais là, je suis shadow aussi sur la sécurité routière au Parlement européen. Ça veut dire qu'il y a un rapporteur qui a été désigné, qui appartient à un groupe politique, et donc dans chaque autre groupe politique, il y a un fictif, un rapporteur fictif.
Un fantôme.
Voilà, fantôme. Je préfère d'ailleurs shadow, parce que c'est une terminologie juridique, hein, en droit constitutionnel, ça existe, plutôt que fictif. Donc j'étais rapporteur fictif sur ce dossier sur la sécurité routière, et j'ai déposé toute une série d'amendements qui ont fait l'objet ensuite d'une négociation et de compromis qui ont été adoptés pour venir concrètement, ça c'est la procédure, mais c'est intéressant pour les citoyens de savoir comment ça marche.
Bien sûr, pour les auditeurs.
Voilà, et les auditeurs, oui bien sûr. Et donc, par exemple, sur les tests de vision, à intervalles réguliers pour qu'on puisse vérifier l'état de santé des conducteurs, sur des dispositions qui créent une prise en compte des sanctions transfrontalières. Moi qui vis dans une région où les gens ne respectent pas éventuellement les limitations de vitesse lorsqu'ils viennent du Luxembourg, de la Sarre ou de la Belgique, alors que nous, nous faisons très attention. Des dispositions qui concernent aussi les blocages pour démarrer quand vous avez pris des
éthylotestes qui empêchent le démarrage.
Oui, comme les termes sont très techniques, j'essaie d'expliquer. Voilà, anti-démarrage. Des dispositions qui vont constituer, alors pas une contrainte, mais une invitation pour les États à établir leur législation dans ce cadre général.
Justement.
Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur 0% de taux d'alcoolémie, ou alors même que si vous mangez un Mon Chéri, vous voyez ce que c'est, les petits chocolats un peu ringards, mais moi je les adore, vous avez un taux d'alcoolémie dans le sang, ou bien si certains prennent des médicaments, il y a un petit peu d'alcool dans le sang. Donc il y a eu beaucoup de discussions là-dessus.
Alors justement, que répondez-vous aux eurosceptiques qui disent que Bruxelles s'occupe des Mon Chéri, de la courbure
non,
des bananes?
Non. Qu'est-ce que vous racontez?
Non, mais que Bruxelles s'occupe des éthylotests, de choses qui finalement vont dans le détail. C'est une des critiques qu'on a entendues.
Mais non, mais on vit tous ensemble. On est mobile, on vit tous ensemble. Je dis pas qu'on doit avoir un seul modèle, mais qu'on est une forme d'osmose. Par exemple, dans ce rapport, on parle de la nécessité de former tout au long de la vie. C'est pas quelque chose qui serait spécifiquement bruxellois.
Et vous pensez donc, que ça peut être un apport justement aux États?
Mais nous vivons ensemble. Donc moi, je trouve tout à fait logique. Et puis, cette question signifie qu'on pense que l'Europe, c'est quelque chose de différent de nous. Mais l'Europe, c'est nous. Flûte alors, c'est nous l'Europe. Même si nous ne sommes que 72 députés pour représenter la France, pour 64 millions d'habitants, l'Europe, c'est nous.
Mais alors, pour reformuler, pour rebondir sur ce que disait Vincent, c'est vrai que là, on parle de choses, pas forcément triviales, mais en tous les cas très concrètes. Cela étant dit, c'est vrai que sur les questions d'affaires internationales, sur les questions financières, sur les questions de fiscalité, sur le cas de la Grèce en particulier, l'Europe n'est pas encore suffisamment, peut-être, importante. Vous-même, vous êtes affirmé comme fédéraliste. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes, par exemple, sur sur les questions de, on va dire, de la zone euro en général. Comment est-ce qu'on peut faire demain pour, par exemple, fédéraliser un budget? Est-ce que vous avez des exemples de grands projets qui peuvent faire avancer l'Europe aujourd'hui? Au-delà d'exemples particuliers de la vie de tous les jours d'un parlementaire.
Le MoDem avait soutenu notamment l'idée de project bonds, c'est-à-dire de bons,
eurobonds,
d'eurobonds,
oui,
et
d'eurobligations.
Oui, alors oui, ce type de choses où on a parlé tout à l'heure de la structuration du budget, c'est-à-dire de sortir en fait de l'ambiguïté qui consiste à demander plus sans faire les efforts. Donc des eurobonds, mais c'est très contesté. Et moi, je suis allée voir M. Barroso là-dessus. Et qui m'a répondu, les bras m'en sont tombés, il a beaucoup de qualités, il est par exemple polyglotte et tout, c'est assez extraordinaire. Il m'a répondu, l'Allemagne ne veut pas. Et je lui ai dit, mais monsieur le président, vous êtes le porteur de l'impulsion communautaire. Vous n'êtes pas le petit commissionnaire ou le petit pétitionnaire ou le petit secrétaire général des États. La Commission, elle doit donner l'impulsion. Après, les États vont dire ce qu'ils veulent. Et nous aussi, on va prendre position. Et depuis le traité de Lisbonne, on peut prendre position. Alors, il n'a pas trop aimé, mais comme il a de l'humour, il l'a enregistré. Nous continuerons de batailler sur les eurobonds. Parce que c'est une façon d'apporter des réponses durables et de long terme. Mais c'est une bataille de tous les instants.
Nathalie Griesbeck, européenne, locale, nationale en 2012, on va plus vous voir sur le terrain national en France pour vous battre aux côtés de François Bayrou dans le cadre des élections présidentielles.
Et petite question subsidiaire et dernière question, est-ce que l'Europe, vous avez toujours la fibre, est-ce que ça ne vous démange pas de revenir ou de retourner plus dans le champ de la politique nationale à l'Assemblée, au Sénat?
Non, moi j'aime, peut-être que j'aime la difficulté, je suis passionnée par ce mandat européen et je suis passionnée par les possibilités qu'ont les députés qui sont bien plus importantes que celles des députés et a fortiori des sénateurs. En revanche, j'aiderais dans ma région avec lucidité et enthousiasme tous ceux qui porteront les valeurs auxquelles je crois. Pas seulement parce que ce sont les miennes, mais parce qu'elles m'apparaissent comme les seules susceptibles de nous sortir des difficultés. C'est-à-dire des valeurs qui consistent à poursuivre la construction d'une Europe vraie, solide, et d'une Europe donc qui soit solidaire entre les peuples européens. Des valeurs d'indépendance politique, des valeurs de décentralisation. Je suis un petit peu tracassée par cette recentralisation dans tout le fatras des lois qui sont les nôtres en France sur la tête des préfets. Ce sont eux qui décident de tout, comme si les élus locaux étaient juste des fantins, des pantins ou des fantoches. J'ai fait un nouveau mot. C'est pas mal, un nouveau mot. Des fantins.
Des shadows.
Ah non, les shadows, c'est un vrai mot. Décentralisation, humanisme et Europe, et bien sûr indépendance politique, puisque on a vu ce qu'a fait la gauche, on voit ce que nous concocte depuis maintenant plusieurs décennies la droite. Il est temps de faire confiance à une nouvelle force.
Nathalie Griesbeck, députée européenne MoDem du Grand Est, merci beaucoup. Ainsi se termine la première saison de Regards sur la politique. Je souhaite remercier toute l'équipe et tous ceux qui sont intervenus cette année. Antoine Kowalski, Martin Wittenberg, ici présent pour vos émissions de l'été au Parlement, en public à Bruxelles. Sabri Otmani, Alexis Fournol. C'était Vincent Chauvet. À bientôt.